5e Land Tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur le podcast. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour ce podcast, nous avons voulu aller plus loin en donnant la parole à une étudiante et professionnelle dont l'expérience l'amène à collaborer directement avec les mutuelles. Quel regard porte-t-elle sur leur rôle et leur impact et comment sa vision se nourrit-elle de son parcours? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en donnant la parole à Sandy Duteau qui interviendra pour une conférence « Mutualité santé et pouvoir d'agir » à Aix-Marseille Université. Bonjour Sandy Duteau.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure, votre parcours?
Alors, donc moi je suis issue d'une formation infirmière initialement, il y a quelques années maintenant, une vingtaine d'années, et sensibilisée dès le départ à ce qu'on appelle dans notre jargon l'approche parcours en santé. Donc initialement j'ai travaillé en soins palliatifs, puis je me suis rapidement orientée vers la construction du parcours initialement posé dans les années 2000, quand on a connu en fait le tournant sur le financement des structures hospitalières, où il fallait trouver aussi des solutions adaptées sur les territoires pour une prise en charge des soins palliatifs au domicile. J'ai construit finalement tout mon parcours là-dessus. Voilà, ça a été la continuité, mon propre parcours. J'ai voulu aussi avoir accès finalement à la santé publique, donc je me suis formée à l'université Rhône-Alpes sur un DU en santé publique. Et puis j'ai rejoint finalement mes premiers amours de coordination en parcours et j'ai pu intégrer à l'époque la plateforme territoriale d'appui, donc qui était sur la coordination du tout parcours, et l'idée était de venir en appui aux professionnels de santé du territoire initialement. Et la dernière réforme de 2021 qui harmonisait donc l'ensemble du territoire national sur la mise en œuvre des dispositifs d'appui à la coordination pour structurer justement ces parcours et ces articulations avec les différents partenaires. Donc créer une dynamique autour de la prise en charge individuelle et autour aussi des acteurs tout en gardant la spécificité territoriale.
Alors les mutuelles, ça vous parle? Comment vous vous représentez les mutuelles de santé?
Alors oui, les mutuelles, ça me parle puisque ça reste un de nos partenaires sur les actions en santé et au-delà, j'allais dire. Aujourd'hui, comment je me représente les mutuelles, donc sous plusieurs aspects, hein, la santé, la protection, la solidarité, la prévention, autour de la famille et de la prévention du risque.
Quelle importance vous accordez aux dimensions historiques de la mutualité?
Alors la mutualité a bien changé, bien évidemment, si on en revient à son évolution, enfin sa base socle d'après-guerre, toute son évolution au fil de l'eau, donc elle a su quand même relever certains défis, s'adapter à l'évolution en fonction des contextes qui sont toujours en mouvance, on le voit très bien au niveau de mon expérience professionnelle, ces 20 ans d'adaptation à un monde qui est toujours en changement.
Alors puisque la conférence a lieu autour du pouvoir d'agir, comment vous pensez que les usagers devraient être davantage impliqués dans le développement des politiques mutualistes et de santé, par exemple ?
Justement, enfin moi je rebondis là-dessus. C'est la même question qu'on se pose en termes d'animation territoriale et en termes de co-construction. C'est évidemment la question de la participation et de comment on se rapproche en termes de proximité, comment on inclut finalement que ce soit des adhérents, des patients, enfin en tout cas les usagers de nos services pour lesquels on œuvre. Voilà, comment on les intègre et comment on se rapproche et on crée de la proximité. Une des remarques qu'on peut se faire bien souvent, c'est l'écart. Je crois qu'il y a eu des analyses de fait là-dessus, mais l'écart entre la production d'un service qui semble vraiment très très éloigné de la réalité de la consommation. Et du coup, une perte de sens, en tout cas pour les usagers, ou en tout cas une perte de repères.
Est-ce que vous avez des exemples à nous présenter pour illustrer ce que vous venez de dire?
Des difficultés à redéfinir en tout cas le rôle et la place des mutuelles, parce qu'il y a peut-être un problème de compréhension et cet éloignement en fait partie. Quelle place finalement au sein de la santé? Parce qu'on était plutôt sur une logique d'entraide et de solidarité, mais la santé ça a été une nouvelle approche des mutuelles et une nouvelle place. Cette incompréhension aussi de cette place-là, sachant qu'il y a énormément d'acteurs en santé et que c'est certainement difficile pour les usagers de s'y retrouver dans le panel d'offres, charge à nous de nous coordonner là-dessus.
Quelles initiatives vous semblent les plus prometteuses pour réduire les inégalités en santé, que ce soit en milieu rural ou urbain ?
Alors effectivement, que ce soit en milieu rural ou urbain, enfin moi j'ai pu faire la comparaison entre un milieu très rural qui est les Alpes de Haute-Provence et on va dire le bassin marseillais, où je me rends compte que finalement ça fonctionne énormément par quartier et par identité culturelle aussi. Et les initiatives les plus probantes, en tout cas moi sur mon territoire, c'était les journées de prévention, de dépistage, les actions autour de la dépendance et l'autonomie. Et autour des transports et de l'isolement géographique, puisque pour nous, c'était en termes d'accessibilité, notamment aux soins. Donc, on a pu collaborer à travers ça et il y a eu plusieurs initiatives sur le territoire. Alors, peut-être que je vais en oublier certaines, mais en tout cas, sur lesquelles on est co-intervenu avec le dispositif Malakoff et Unicité, avec les services civiques, où là, on a vraiment pu travailler le lien social et l'éloignement géographique auprès des personnes âgées en grande précarité. La mutualité française, avec le repérage de la fragilité au sein des CPTS, donc des communautés professionnelles de territoire en santé, sur le repérage avec la grille ICOP, qui a quand même été une grille qui a été largement diffusée sur ce repérage-là. Les technicothèques aussi, autour de l'ergonomie et de l'adaptation du logement. Les mutuelles du soleil aussi, qui ont pu, en tout cas sur notre territoire, accéder à... on va dire une mutualisation de moyens entre les services de soins à domicile et les services d'aide à domicile et comment on coordonne ces parcours autour de la dépendance.
Ça me fait une transition toute trouvée puisque ma question suivante, c'est comment est-ce que vous percevez les partenariats entre ESS et pouvoirs publics ?
Je dirais qu'il y a encore du travail à faire, bien que je pense que les politiques, enfin en tout cas ce qu'on appelle nous les tutelles, hein, donc au niveau des politiques publiques, prennent conscience de plus en plus, moi je le pense, de cette prévalence à devoir décloisonner les parcours. Je pense qu'ils se sont aussi heurtés à la difficulté de fonctionner en vase clos et par parcours. Donc c'est ce qu'on tend à faire. Ça a été peut-être aussi initié par justement ces dynamiques territoriales où il a fallu trouver des solutions, là où peut-être les pouvoirs publics avaient peut-être plus de mal à en trouver. Et où finalement, ces acteurs-là et ces initiatives-là au sein des territoires a été vraiment un chemin d'exemplarité, j'allais dire, et un modèle, en tout cas, à développer sur nos territoires.
Et les initiatives dont vous parlez, c'est quoi les principaux défis auxquels elles font face pour répondre aux besoins des usagers ?
Les principaux défis, c'est tout comme les trois quarts des partenaires. C'est une population de plus en plus vieillissante et de plus en plus précaire. En tout cas, c'est ce que nous montrent les chiffres, et surtout en région PACA, avec aussi de grandes disparités géographiques, d'éloignement de centres de santé. La question de l'éducation aussi, on voit bien que les centres universitaires aussi sont centralisés dans les Bouches-du-Rhône ou d'autres métropoles. Et finalement, la question aussi de l'accès à l'éducation au sein de nos territoires. Voilà, ça reste quand même trois axes qui pour moi sont prioritaires aussi.
Et justement, quelles idées ou pratiques pourraient en fait renouveler le modèle mutualiste et le rendre plus proche des nouvelles générations ?
Là, je pense qu'on peut parler de comment les mutuelles arrivent à intégrer l'éducation nationale. Quel discours, quelle place on laisse aux mutuelles, à la santé, la mutualité, l'entraide. Comment on véhicule encore cette culture mutualiste dès le départ, c'est-à-dire comment on l'intègre vraiment à l'éducation. Alors, auprès des jeunes, mais peut-être aussi auprès des enseignants, qui eux-mêmes se retrouvent parfois en difficulté sur des parcours de santé. On le voit bien et on cherche aussi à décloisonner ces parcours-là avec des accompagnements spécifique pour les jeunes, mais au-delà de l'accompagnement, c'est comment aussi on leur laisse une place dans le parcours de l'élève, la famille, la santé et l'entraide.
Alors en ce moment, à la MGEN, on a un œil vigilant sur la santé des femmes. La prochaine question que j'aimerais vous poser, c'est quelles initiatives devraient être mises en place pour favoriser une meilleure santé des femmes, et notamment ce qui a trait à l'alimentation et l'accès aux soins.
En ce qui concerne la santé des femmes, moi je suis, avec ma déformation professionnelle en approche parcours et la montée des dispositifs de coordination, c'est l'association en fait de ces mutuelles avec ce qu'on appelle les réseaux périnatalité ou même au niveau des réseaux d'onco, tout parcours. Finalement, c'est en termes de partenariat, comment on envisage ce partenariat, du repérage de certaines fragilités jusqu'à la mise en œuvre de ce parcours, comment on le structure, comment on redéfinit la place de chacun, le qui fait quoi. L'idée étant de rendre lisible effectivement pour les usagers, mais aussi pour nous en tant que professionnels, pour pouvoir donner la meilleure réponse possible et adaptée à la spécificité de chacun. Et en tout cas, pour les femmes, effectivement, il y a tout un parcours de vie autour de la naissance, de l'enfant, de l'alimentation, de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Donc on en revient aussi à comment on intègre les mutuelles et la sensibilisation au niveau des filles dès le plus jeune âge. Voilà, avec toute la question de aussi la sexualité qui s'ensuit. Comment on réfléchit le partenariat sur le territoire en termes de la gouvernance, en tout cas la gouvernance territoriale. Comment on s'unifie aussi pour construire ces parcours.
Extrêmement intéressant. Alors, est-ce que vous pensez que les mutuelles, elles sont assez investies dans l'éducation sur l'alimentation et puis sur la prévention santé, parce que vous parliez aussi d'éducation au plus jeune âge, ce qu'on pourrait faire rentrer dans la prévention. Et puis, comment est-ce que vous imaginez qu'elles pourraient mieux s'investir, les mutuelles?
Alors moi, je trouve que sur l'alimentation et l'éducation à la santé, c'est vraiment les axes phares sur lesquels on voit les mutuelles. Moi, je l'aborde, et c'est très bien, tant mieux, parce que voilà, il faut qu'il y ait des initiatives co-construites. Mais effectivement, après, c'est d'aller peut-être sur d'autres problématiques de territoire et plusieurs problématiques sur des parcours qui n'ont pas été encore suffisamment construits. Et c'est peut-être là aussi ce qu'on appelle les niches. Mais en tout cas, ces niches-là, elles y sont. Et comment on va peut-être sur des parcours un petit peu marginaux, repenser l'intégration au sein des parcours jeunes, mais sur d'autres parcours en santé aussi, hein, ou sur des parcours un petit peu plus sociaux. On parlait de précarité tout à l'heure. Voilà comment on investit ces thématiques-là aussi. Voilà, c'est aussi aller innover là où finalement, peut-être personne n'a encore suffisamment investigué, ou en tout cas, où la coordination du parcours et la coopération entre les acteurs n'est peut-être pas encore suffisamment construite, et c'est peut-être maintenant qu'il faut démarrer la dynamique.
Encore une fois, ça me fait une transition toute trouvée, puisque ma prochaine question, c'est comment les mutuelles, elles peuvent rester pertinentes dans un monde en rapide évolution, en particulier pour les jeunes?
Alors, on rebondit sur la question de la... en fait, voilà, ouais. C'est tout est lié, mais ouais. La question de la précarité, la conscience de ces inégalités chez les jeunes. On voit bien qu'il y a un écart aussi générationnel de représentation, de conscience des inégalités et de ce qu'est le commun. Alors, des écarts au niveau certainement géographique, puisqu'on se rend compte qu'il y a un éloignement entre les enfants et les parents, alors qu'autrefois, on était quand même sur des modèles très d'entraide. On bascule sur d'autres modalités, en tout cas d'entraide. Et c'est peut-être là où la place des mutuelles en termes de commun, de retour l'entraide, hein, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit. Comment on peut s'appuyer aussi sur ce dispositif-là que représentent les mutualités auprès des jeunes pour venir aussi étayer leur construction dès le plus jeune âge finalement, et là où ils vont aussi se lancer dans la vie active ou dans les études, voilà, quel levier aussi pour eux quand la famille ne peut pas être là ou que l'éloignement géographique est trop important. Voilà, qu'est-ce qu'on leur offre aussi comme piste et comme socle pour pouvoir avancer dans la vie.
Alors Sandy, un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir?
J'aurais pas cette prétention-là. Moi, ce qui m'a le plus c'est ce qui a construit un petit peu mon questionnement tout au long finalement de mon parcours de vie. C'est un livre qui m'a marqué au moment où je faisais mes études d'infirmière sur le normal et le pathologique. Donc c'est Guinguillem qui a écrit ce livre, donc Le normal et le pathologique, où il analysait déjà la question des écarts, des inégalités, de qu'est-ce qu'est la norme en fonction du prisme avec lequel on le regarde, et qu'il faut toujours avoir cette bienveillance de regarder dans un contexte et dans un milieu toujours en mouvement, donc on y revient. Et qu'il n'y a pas de vérité absolue finalement, et que rien n'est si normal et rien n'est si pathologique ou anormal ou hors parcours quand on veut bien finalement regarder avec d'autres yeux ou d'une autre place.
Merci beaucoup Sandy Duteau. On se retrouve demain pour la conférence Mutualité Santé et Pouvoir d'agir à Aix-Marseille Université.
Avec plaisir.